Profitez d'une retraite paisible dès votre entrée dans la vie active avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Bon, écoutez, faire le tri, c'est... Avant, j'étais comme ça, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Maintenant, je suis comme ça, il y a ça que je peux faire, il y a ça que je pourrais faire, il y a ça que j'ai envie de faire, il y a ça que je vais faire. Donc ouais, c'est ça le tri, c'est deux mondes parallèles.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour la troisième et dernière partie de notre reportage en immersion dans Priorité Santé. Parcours d'accidentés de la vie, de leur arrivée à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches jusqu'à leur sortie. Un travail au long cours pour suivre les différentes étapes de la rééducation de ces patients. De l'annonce de leur diagnostic au début de la kinésithérapie, des premières sondes à la maîtrise de la toilette, push-up, se lever à la maîtrise totale des transferts, fauteuil roulant, fauteuil douche. Dernière partie de ce reportage que nous propose depuis le début de la semaine Igor Strauss, rencontre d'une équipe et de trois patients, trois jeunes hommes avec des parcours de vie très différents. On les remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre présence pendant ces 6 mois de temps. Merci pour leurs témoignages précieux, paroles, expertise, atmosphère, moments de vie pour apporter un regard différent sur le handicap avec Igor Strauss.
Chapitre 15. Le stage de char à voile en Vendée, sur la côte atlantique française. Avec Caroline, 25 ans, paraplégique après un accident de ski, Karine, infirmière, et Gaëlle Le Bornec, psychologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Ok, t'as mis où mon sac dans le camion ? Il est devant ? Donc nous voilà à l'école de voile.
Voilà. Nous voilà.
Notre-Dame-des-Monts.
Notre-Dame-des-Monts, nous voici arrivés. On va aller s'équiper.
Je vous laisse vous présenter.
Oui, alors moi je suis Karine, donc infirmière à Garches depuis 11 ans. Et je participe au transfert de char à voile depuis 2 ans. Enfin, j'ai fait l'année dernière et puis du coup cette année.
Et ça vous plaît, le stage char à voile ?
Oui, 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 c'est une très très bonne expérience. Et puis de sortir du contexte de l'hôpital, c'est très enrichissant. Et puis surtout aussi pour de les voir dans la vie quotidienne plutôt que au sein de l'hôpital. Et d'avoir un après, en fait, parce que quand on est à l'hôpital, on a peut-être moins le temps aussi de les laisser faire, même si on essaye au maximum de les rendre les plus autonomes. Mais en fait, c'est vraiment quand on fait, par exemple, ce genre de stage, que là, on se rend compte réellement en tant que soignant, ce qu'il y a de possible dans leur capacité. Et ce qui, moi, me permet après, au niveau du travail, de pouvoir prendre un peu plus le temps avec les
réorienter
patients.
Le travail, ouais, réorienter après, le travail. De retour à l'hôpital.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Donc, la combi.
Voilà, la combi. Moi, j'amorce. Après, Caroline, elle m'aide au maximum pour bien remonter le pantalon. Et puis, je puisse redescendre le sien. Et puis après, elle va se faire un petit push-up. Elle va se relever un petit beau...
glisser sous les fesses.
Tout à fait, pour la glisser sur les fesses. Et puis, ou alors, sinon, on va faire une autre technique.
On va les
stretcher, en fait. On va vous montrer, du coup, elle va se tenir au niveau d'une corde qui est mise au niveau du mur pour se suspendre, ce qui est plus simple pour bien tirer la combinaison parce que c'est quand même quelque chose de très important aussi pour l'installation et puis la préparation au niveau du char à voile parce que si une combi est mal mise, on va avoir des plis. On y reste quand même un petit moment, donc du coup... pour éviter les rougeurs et puis après les viscards et tout ça. Là, je te laisse mettre, du coup. Hop. Je suis vraiment là pour donner un petit soutien si elle a besoin, mais surtout pas faire à leur place parce que c'est pas le but. Et puis, de toute façon, c'est pas ce qu'ils demandent.
Et vous connaissiez déjà toutes les deux de Garches ou pas ?
Alors, on s'est deux vues. puisqu'on s'est présenté une petite semaine avant. Et puis la cohabitation au sein de la chambre, et puis pendant une semaine.
Est-ce que vous êtes dans la même chambre aussi?
Voilà, tout à fait, on est dans la même chambre.
Ah oui, donc ça crée des liens,
ça. Ça crée de très bons liens, de bons moments partagés ensemble. Je pense qu'on n'oubliera ni l'une ni l'autre. Donc voilà, et c'est ça qui est vraiment, même humainement, très très enrichissant, quoi. C'est que du bonheur.
Plaisir partagé.
Mais alors justement, dans ce processus d'autonomisation, Caroline, toi, est-ce qu'il y a des choses typiquement que tu faisais pas avant le stage et que tu fais maintenant ?
La première fois que Caroline dit « Bon, écoute, je sors de la chambre, je vais prendre mon petit-déj, je devais faire mon transfert toute seule, sans surveillance ni rien, pour aller sur mon lit », ouais, c'était une première, quoi. Sur le coup, je me suis dit « Ah, bon, bah ça y est, la vraie vie commence. Il n'y a personne qui est là derrière moi pour m'aider, pour... voilà, si j'ai une galère, bah, je me débrouille et... voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et au début, on a peur, mais au final, bah, ça se passe très bien. Je suis toujours là, donc... Quand on débarque dans un environnement qu'on ne connaît pas, on sort de l'hôpital, ou comme je disais tout à l'heure, tout est vraiment au millimètre, cadré. On sait que si on a un problème, on peut appeler. Bon, toi aussi, on peut t'appeler. Mais voilà, le lit, souvent, il se descend à l'hôpital. Ici, bah, il n'y a pas le choix, quoi. S'il faut monter, il faut monter. S'il faut descendre, bah, voilà, c'est des distances qui sont plus hautes. On ne peut pas trop s'adapter. Enfin, c'est à nous de nous adapter, pas au matériel à s'adapter, en fait.
Bien.
Vous êtes prêts?
Ouais, moi c'est bon.
1, 2, 8.
Et ben voilà, c'est une affaire qui roule pas.
Oh, recouvert de sable.
Ouais, recouvert de sable, je pense. Ouais.
Comment ça s'est passé?
Top! Trop bien! On a fait quoi, 7-8 km? Ce qu'il disait Marco?
Ouais, 8 à 9 km ouais. À l'aller, puis au retour.
15 heures!
On remonte au vent, ouais!
Donc, moi je voulais vous suivre à pied, j'ai pas pu!
Ah ouais, non, au fond, et puis quand ça trace, hein! Ça fait des petites sensations, quoi! Alors c'était cool! J'ai voulu venir à ce stage de char à voile parce que déjà ça me faisait une longue sortie de l'hôpital. Voilà, au bout de 4 mois et demi, 5 mois, ça commence à faire un trop plein d'hôpital, de blouses blanches. Enfin, voilà, ça dépend la durée du séjour là-bas, mais je pense que faire un break, aller voir la mer, c'est juste génial, quoi. Que bah, c'est vrai qu'à Garches, voilà, c'est pas forcément la même éclate.
Alors aujourd'hui au stage de char à voile, tu es avec Théo qui en est à son deuxième stage de char à voile et qui est déjà sorti depuis longtemps de Garches, et Pierre qui est sorti il y a quelques mois. Le fait d'avoir des gens qui vivent à l'extérieur, en quoi toi ça peut t'aider, toi qui es encore à l'hôpital?
Ah ben moi ça me rassure. Ça me rassure quand je vois Théo qui est là, qui est sorti depuis 3 ans. De voir que bah il a repris un boulot, il continue à vivre, il continue à sortir, c'est une personne tout à fait normale, enfin on en oublie le fauteuil, quoi. Voilà, c'est de voir que ils font tous les deux des des trucs un peu de fou dans leur vie, et du coup c'est sympa de voir que la vie continue, quoi.
Je m'appelle Gaëlle Bornec, je suis psychologue à l'hôpital Raymond Poincaré et je suis présente au stage de char à voile en tant que bénévole de l'association APCH.
Alors pourquoi y participer en tant que bénévole ?
Pourquoi y participer ? Ben, la première des choses, c'est que c'est des stages très sympathiques, et après, d'un point de vue plus professionnel, c'est hyper enrichissant de voir les personnes à mobilité réduite ou même des cérébro-lésés évoluer dans des cadres qui ne sont pas hospitaliers. Ça nous permet vraiment d'envisager le handicap autrement et plutôt comme une absence de réponse à apporter, et au contraire d'observer, de voir comment les gens se débrouillent au quotidien. Et en plus de bénéficier d'énormément d'apports au niveau professionnel sur l'approche qu'on peut avoir du handicap. Et ça nous évite, enfin pour ma part, de tomber dans une espèce d'asymétrie de la relation entre soignant et soigné.
Justement, très concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, soignant,
ce genre de stage.
Ce dont je me suis aperçue, c'est que les vraies réponses sont apportées plutôt par les pairs, les autres personnes en fauteuil, qui ont par exemple plus d'expérience, qui sont plus loin dans leur paraplégie. Ils apportent beaucoup plus très rapidement que moi j'ai pu le faire. Donc ça permet aux nouveaux de voir l'après, tout ce qui est possible de faire après, et ça c'est très porteur. Après, la parole étant plus libre, ils nous racontent en fait plein de choses, ils nous donnent notamment les clés, qu'est-ce qu'ils ont utilisé eux comme ressources pour s'en sortir, et c'est vrai que du coup je leur vole un peu leurs idées et je l'utilise après pour les autres patients. Par exemple, là, encore hier, Caroline m'a dit que l'important c'était de se débrouiller seule, elle était fatiguée, je lui ai dit écoute, si tu veux exceptionnellement je te mets tes chaussures, elle m'a dit non, parce que renoncer une fois c'est renoncer tout le temps, et donc ça du coup ça nous permet de nous mettre plus à distance, de ne pas être toujours dans l'aide, et c'est vraiment hyper important pour eux de se débrouiller parce que c'est leur vie et qu'il faut qu'ils soient à tout prix autonomes.
Chapitre 16. Kiné et résultats des concours, avec Martin, 19 ans, paraplégique après un accident de ski, et Juliette, sa kinésithérapeute.
Bonjour Martin.
Bonjour.
On se retrouve après presque 2 mois et demi, et là donc tu es entre les barres parallèles, et moi ce que je constate c'est des progrès hallucinants quand même, en penses-tu ?
Bon, hallucinant, moi j'irais pas jusque là, c'est... Je veux dire que ça a suivi son chemin plutôt tranquillement, de mon point de vue. Mais ouais, c'est cool. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on a en plus, c'est que du bénéfice. Et puis, on essaie d'optimiser tout ça.
Et là, tu es debout et tu marches, bon, à l'aide des barres parallèles.
Oui.
Qu'est-ce qui fait la grande différence ? Tu me parlais des nouvelles prothèses adaptées, sur mesure.
Ouais, d'une certaine façon. Puis aussi, des meilleures sensations parce qu'on s'est entraîné au fur et à mesure. Et puis un petit peu de progrès musculaire qui se rajoute à tout ça, quoi. Mais en tout cas, oui, du coup, là, il y a plus d'endurance et peut-être un poil plus de fluidité qu'avant. Hein. Ouais. Bon, même si c'est toujours un peu compliqué, on va dire. Mais...
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous laisse vous présenter.
Et je suis Juliette et en ce moment, je travaille en kiné avec Martin. Martin a eu ses nouvelles attelles qui sont beaucoup plus adaptées que celles avec quoi il marchait avant. On essaie d'optimiser, de voir jusqu'où on peut aller avec celle-là. Et on verra après. On est en phase de test.
Il est permis de rêver de l'évolution ou...
Non, on rêve pas. On prend petit à petit, on voit jusqu'où Martin va, mais on garde les pieds sur terre.
Et alors, Martin, ces attelles, elles sont comment ? Qu'est-ce que t'en... le bilan ?
Par rapport à ce que j'avais avant, il n'y a pas photo. Hein. C'est plus léger, c'est pas le même système. Hein. Donc avant, comme c'était de l'alu... du coup ça pliait, c'était pas génial, mais je pense que ce qui fait progresser davantage par exemple contre les barres ou même sur d'autres exercices, c'est plus des sensations, quoi. C'est-à-dire que on a des meilleures sensations qui permettent de mieux appréhender ce qu'on va faire, les pas, je veux dire, une sorte d'équilibre aussi. C'est un peu un mélange de tout ça, quoi.
Et du coup ça joue vraiment sur la confiance, ouais. Tu sens que t'as plus confiance?
Bah là oui, c'est-à-dire qu'avant pour tenir sur ma jambe à droite, je devais mettre verrouiller ma jambe, c'est-à-dire faire en sorte que mon genou soit un peu mis en arrière. Alors actuellement, bon, je ne le fais pas parce que j'ai des attelles qui permettent de ne pas le faire, mais je peux le faire en étant sûr que 80-90% que ça tienne, ce qui veut dire qu'il y a forcément moins d'hésitation, il y a forcément moins d'appréhension quand on y va. Quoi.
Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et tu redescends. Et redescends. Et encore. Et redescends. Ok, essaie de ne pas te déhancher là sur la droite.
Ok.
Et rester là. Vas-y. Et redescends. Vas-y. Et redescends.
Et donc Martin, toi, je sais que tu as eu des examens, alors je ne vais pas encore te demander les résultats, suspense. Tu as quitté finalement l'hôpital pendant 3 semaines, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Est-ce que du coup, ça a eu un impact sur la rééducation, sur l'évolution ou pas ?
Compliqué à dire. Moi, je n'ai pas eu la sensation de perdre des choses. J'ai même un peu progressé. Bon, après, c'est peut-être des progrès neurologiques qui se font quoi qu'il arrive. Hein, mais globalement, j'ai pas du tout eu cette sensation de régresser.
Bon, et ces examens alors?
Bah, ça s'est bien passé, franchement. Compte tenu de la situation, ça s'est même très très bien passé. J'aurais même jamais pensé que ça se serait si bien passé, en fait. Donc ouais, je suis content. J'ai été sous-admissible à Normal Sup, c'est... Du coup, moi, je suis très content.
Avec des bonnes notes avec...
Ouais, bah des bonnes notes, du coup, ouais, c'est ça qui fait que je suis très content. Et puis j'ai une autre école. J'ai une école d'ingénieur en statistique, en finance, bon, à laquelle je compte pas aller, du coup, parce que je pense que je peux avoir mieux l'année prochaine. Alors, ça paraît paradoxal, mais comme ça, c'est... Comme j'ai eu des bonnes notes, du coup, je refais une année où je repasserai les concours, du coup.
Donc de Normal Sup.
Ouais, de Normal Sup et des écoles de commerce, HEC, etc.
Tu ne t'attendais pas de si bons résultats, c'est vrai?
Bah, globalement, les concours, enfin, j'avais choisi d'y aller juste après mon accident, où c'était pas évident. Et puis globalement, juste avant les concours, je me suis dit, l'objectif, c'est simplement de ne pas s'ennuyer pendant les 6 heures, quoi, parce que 6 heures, c'est long. Je voulais simplement que, globalement, je passe pas 6 heures horribles à réfléchir sur un sujet auquel je comprends rien, quoi. Et puis finalement, le verdict est tombé, et je me dis que c'était plutôt pas mal compte tenu de... La préparation qui a été un peu chaotique.
Oui, c'est ça, parce que tu n'avais pas pu réviser autant que tu le souhaitais, en raison de l'accident, c'est ça?
Ouais, bah faut savoir que les gens qui font ce concours, ils bossent au minimum 70 heures par semaine. Bon, travailler 70 heures par semaine quand on est à l'hôpital, c'est plus évident, quoi. Je suis très content et...
Bah, c'est génial.
J'espère, ouais. Puis j'espère avoir mieux l'année prochaine, surtout.
Bah, écoute, bravo.
Merci.
Fin de l'exercice.
Ouais.
Et le retour après les examens, comment tu l'as vécu?
Bah, je me suis rendu compte que j'étais pas mal chez moi, donc retourner à l'hôpital, bon, c'est... Encore une fois, j'ai pas du tout craché sur l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien, mais bon, la bouffe de l'hôpital, c'est jamais ouf. Donc, il faut s'y réhabituer, puis serrer un peu les dents, on va dire, au début. Puis bon, après, de toute façon, on s'habitue, puis c'est reparti pour un tour, quoi.
Tu habites chez tes parents ou tu habites...
Avant, j'habitais en chambre de bonne à Neuilly, donc là où je faisais mes études, dans mon lycée de prépa. Donc du coup, comme j'ai des permissions le week-end, je rentre chez mes parents le samedi et le dimanche.
Et chez eux, c'est adapté, justement?
Bah, c'est compliqué, parce que bon, il y a 6-7 marches à monter. Une fois que j'y suis, ça va, parce qu'on a une maison qui regroupe à peu près tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire salle de bain, chambre, bureau, tout ça. Mais ce qui peut être compliqué pour des personnes qui savent pas du tout où est-ce qu'elles vont s'arrêter, c'est mon cas, moi je sais pas du tout dans un an si je serai toujours paraplégique, si je pourrais marcher, et si je marcherais, comment est-ce que ça se passera. Donc du coup, c'est compliqué de se dire, bon, bah, je commence à aménager une maison de paraplégique. Parce que bon, imaginons que plus tard j'arrive à remarcher, on n'a pas forcément envie d'avoir chez soi des appareils qui vous rappellent l'hôpital ou des appareils. Et puis bon, même parfois chez soi, on n'a pas envie que ce soit une espèce de laboratoire ou...
Une succursale de l'hôpital, quoi.
C'est ça, oui. On aime bien avoir un chez soi normal, quoi. Un chez soi comme le chez soi des autres.
Bon, allez, je te laisse filer en balnéo.
Parfait.
Merci. Profites-en alors. À tout à l'heure.
Bonne journée.
Chapitre 17. La conduite ou les méandres de l'administration. Avec Alexis, 23 ans, paraplégique après un accident de moto, et Aureliana, ergothérapeute.
Si tu veux le faire avant de partir, il y a toujours la possibilité qu'on le fasse ensemble pour que ce soit plus rapide.
Je vais aller les voir, je vais quand même discuter avec eux. Mais ok, je prends.
Et dans tous les cas, il faudra que tu amènes ton permis le jour de l'évaluation, le règlement qui est de je ne sais quelle a augmenté un peu ses tarifs. Et après, on te fait un compte-rendu en disant que tu es apte à conduire de façon sécuritaire avec tels aménagements. Ouais. Tu prends rendez-vous avec un médecin agréé de ton département. Ouais. Et après, le médecin agréé, il va te dire 99,9% ce qui est écrit sur notre compte-rendu. Il envoie un dossier à la préfecture. La préfecture te convoque normalement pour faire une évaluation avec l'inspecteur. Donc, tu vas avec l'auto-école. Et après, tu reçois ton nouveau permis avec les codes édités, donc avec des lettres et des chiffres, que tu auras sûrement de façon provisoire pour 1, 2 ou 5 ans. Ou définitif, ça dépend des préfectures. Et généralement, après, ils te reconvoquent et là, ils te le donnent la deuxième fois de façon définitive à vie.
Ok.
C'est-à-dire que si tu veux changer d'aménagement, il faut refaire tout le processus. Donc, dans les deux aménagements que tu vas tester, il faut bien que tu sois certain de celui qui te convienne, parce que je pense que niveau sécuritaire, les deux te conviendront. Mais voilà.
C'est son préférence. Ouais.
Et si sur ton véhicule il y a des. Parce que c'est la MDPH, tu as droit à 5 000 euros pour ton véhicule, que pour les aménagements. Tes aménagements, ils ne vont pas forcément dépasser 5 000 euros, mais par exemple, des options qu'on peut justifier du fait du handicap, comme par exemple les radars de recul, parce qu'on sait que c'est compliqué des fois d'aller faire des torsions, des choses comme ça, on peut le justifier. Mais si ça dépasse les 5 000 euros, bah, il pourrait être que ce soit de ta poche. Du coup, Comet peut monter des dossiers AGFIP et FIP, mais ça, c'est que dans le cadre où ta voiture te sert pour aller travailler. Pour financer d'autres choses sur ton véhicule.
Ok. Bon, en tout cas, c'est noté, je vois.
Et après, à la MDPH, il faudra que tu envoies le papier CERFA du médecin agréé, parce qu'il n'y a que lui légalement qui peut justifier que tu as besoin d'aménagement. Le compte-rendu de l'ergo, que ce soit Comet ou moi, disant que ta conduite est sécurité à tel aménagement, et deux devis d'équipementier auto. Si tu achètes un véhicule d'occasion, bah, tout le véhicule est à tes frais. Si c'est un véhicule neuf, on peut financer sur la boîte.
Différentes options.
Compliqué tout ça.
Après le choix du fauteuil, le choix de la voiture maintenant.
Ah, c'est ça.
La maison, le. Ouais.
Disons que j'en prends note, je vais sûrement.
Oublier des petits détails.
Tu vas sûrement devoir me le réexpliquer encore, mais la prochaine fois, voilà, je prendrai de quoi noter. Tu vois, enfin, vraiment un papier, un stylo.
Non, mais la procédure est un petit peu.
Bah. Ouais, enfin, tu vois, je suis content que tu la connaisses, quoi.
Oui! Oui, mais c'est vrai qu'après, ça vous fait une tête entre le fauteuil, la maison, toutes les aides au financement, les dossiers à monter.
Ouais, ça fait beaucoup de choses.
Ouais.
Ça fait beaucoup
quand
de choses.
Pas du milieu, ça fait beaucoup de choses à retenir.
Et juste pour bien comprendre, Comet, c'est quoi ?
Comet, c'est une cellule de réinsertion socio-professionnelle. Il y en a, je crois, une quarantaine en France, avec différents professionnels. Dans la nôtre, il y a un médecin du travail, une ergothérapeute, une ergonome, une psychologue du travail, et qui aide les patients, même après l'hospitalisation, pendant 2 ans, pour les aider à se réinsérer dans soit leur milieu professionnel, soit une réorientation quand il y a malheureusement des métiers qui ne sont plus forcément accessibles. Donc voilà, donc elle débloque des financements pour des aménagements de poste, des aménagements architecturaux sur place pour accéder à l'entreprise, voilà, des conseils sur tout ce qui est les indemnités, les pensions d'invalidité, etc., les catégories, tout l'administratif.
Ok, bah je vais aller les voir maintenant, écoute.
Okay. Tu vas maintenant ?
Je pense, oui.
Bah, comme ça, au pire, tu récupères tes calepiers sur le retour.
Ouais, je fais ça. Non, mais bien sûr.
À tout à l'heure.
Bah écoute, bon week-end Alexis.
Bah ouais, bon week-end Igor.
Lundi ou mardi, je sais pas encore.
Bon, oui,
je
bah,
te fais un petit texto.
Je me tiens au courant. De toute façon, voilà, mes horaires ne changent pas trop. Je te dirai si jamais j'ai.
Si t'as des trucs, tu me dis, tu vois. Moi, je suis souple.
Ok.
Lundi, mardi, mercredi, c'est pareil.
Top.
Bon week-end.
Allez, à toi aussi.
Ciao. Two finger pain is not a sin. I put my middle finger in your monthly blood is what I win. I'm in your house now, let me spin. Python the power straight from a Monte. Say your Lord love got a John Frusciante. Spread your head and spread the blanket. She's 2 feet and I'm the patient. I'm black and white, red and blue. I think that look good on you. And if I scream, Dracula and Dollar Hood, unspoken words were understood. Up to my ass in alligators. Let's get it on with the alligator haters. Did what you did what you said. What's the point, yo, what's the spread? Black and white, red and blue. I think that look good on you. And if I scream, don't let me go. A bubble stain, I know. And if I call, but you can stay. Come hit the bump on your way. It's way out there. Blood is what I win. I'm in your house now. Let me spin. Feather light, but you can't move this. Bali is an angel, and I can't approve this. Purple is a stain upon my pillow. Let's sleep, a weeping willow. Black and white, red and blue. I think that looks good on you. And if I scream, don't let me go. A bubble.
chez Alexis n'est pas là, il n'est pas repassé.
Il est descendu, il est allé à la cafette, il va peut-être prendre
votre. Non, mais je vais voir la cafette. Bonne journée, merci.
Je vous ferme la porte.
Chapitre 18. Les amis, la famille. Avec Alexis, 23 ans, et Modibo, 20 ans.
C'est vrai que j'avais des très bons amis, et puis voilà, suite à l'accident, en fait, on peut vraiment voir ceux qui vont se donner la peine à faire des choses qu'on pensait pas forcément, en fait, qui seraient prêts à faire. Voilà. J'ai un très bon ami et sa femme, qui, de par mon accident, je les vois encore presque tous les week-ends ou un week-end sur deux. Ils viennent jusqu'ici, ils prennent de mes nouvelles, on continue à se voir régulièrement. Même pour sortir, ils sont prêts à faire le trajet, me prendre et puis m'amener n'importe où à droite à gauche. Ils ont acheté une voiture justement pour pouvoir faire le trajet, le déplacement. C'est-à-dire, si ça, c'est pas révélateur quand même, je sais pas ce qu'il faut. Un autre ami qui, au moment de mon accident, lui, il allait chercher des témoignages sur Internet, il allait discuter avec des gens, récupérer des témoignages lui-même, il a fait le boulot d'une police, tout simplement. Alors que, voilà, j'étais encore dans le coma à ce moment-là. C'est assez incroyable, en fait, ce que les gens sont prêts à faire pour leurs amis. En fait, on se pose jamais la question jusqu'à où sont prêts à aller nos amis dans des situations pareilles, car on les imagine pas, en fait, ces situations. Enfin, pas vraiment. Et c'est même gênant presque à un moment où. Enfin gênant. Dans un sens où ils en font tellement en fait pour moi, par exemple dans certaines situations, que. Et j'ai une dette entre guillemets envers eux.
Ah, ça va passer, continue. Non, on l'a pas vu. Ouais. Là, ça
va passer. Arrête. C'est grave pas le moment là. Et ta famille alors, comment ils réagissent par rapport à ta situation? Ils sont habitués, ils sont...
Mais écoutez, je pense qu'ils s'habitueront jamais, mais c'est qu'ils me voient toujours avec le moral, toujours souriant. Je pense que c'est ça qui les fait sourire. S'ils me voyaient tous les jours en train de déprimer, pleurer, ils seront tristes aussi avec moi toute l'année. Mais non, ils voient que je tiens le coup, que j'ai fait le tri. Je pense que c'est ça aussi qui les rend heureux dans mon malheur.
Ça fait deux fois que tu dis... faire le tri. Mais c'est quoi faire le tri, justement?
Bah écoutez, faire le tri, c'est... Avant, j'étais comme ça, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Maintenant, je suis comme ça, il y a ça que je peux faire, il y a ça que je pourrais faire, il y a ça que j'ai envie de faire, il y a ça que je vais faire. Donc ouais, c'est ça le tri, c'est... deux mondes parallèles. C'est grâce à ça que je veux beaucoup mieux dans ma tête. C'est vrai, le tri, je l'ai vite fait en deux mois et demi max.
Bah, c'est là que je vois le fameux mental d'acier dont tu parlais.
Ah, voilà. Après, le combat, il est intérieur. Il est intérieur, le combat. Moi, toute la journée, tous les jours, je me bats. Tous les jours, je combats. Le combat, il ne cessera jamais. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne va pas m'empêcher de vivre.
Ouais. Non, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Justement, quand on se sent bien, on sent ce qu'on fait est bien. Et est-ce que ce sentiment, cette estime de soi... elle est plus forte aujourd'hui avec l'accident qu'avant, quand tu étais valide?
Franchement, ça, je sais même pas. Je ne sais même pas vous répondre, parce que j'y pense même pas. Si je vous réponds, c'est que je vous réponds à la va-vite, c'est même pas réfléchi. Peut-être que je vous mentirais ou autre, donc je préfère même pas vous répondre. Je sais même pas.
Bah, c'est une super réponse. Merci. Merci de ta franchise.
Ouais.
Merci, Modibo.
Bah de rien, c'est gentil. Je pense qu'on a fait le tour, là. Hein.
Bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le mois d'août, là, du coup?
Non, c'était tout le mois d'août, je serai à l'hôpital. Faut pas me souhaiter bonnes vacances. Bon, allez, bonnes vacances quand même.
Bon, alors, bonnes vacances quand même. Ouais,
ouais. C'est gentil.
Je te laisse ouvert ou je ferme?
Ouais, je peux fermer, hein.
Chapitre 19. Les inégalités sociales.
J'y vais, d'accord.
Avec Alexis, 23 ans, et Martin, 19 ans.
C'est incroyable les différences de... Alors comment on est traité en fait différemment et parfois...
Les inégalités, finalement.
Bah, c'est ça, parce que ma mutuelle, je vais pas donner de nom, mais...
Voilà, d'autres vont souscrire à la même mutuelle mais avoir un contrat différent et personne ne va regarder, que ce soit même les patrons ou n'importe quel organisme. Dans le contrat, la catégorie grand appareillage ou appareillage, personne ne se dit, tiens, si jamais je suis en fauteuil roulant, combien ça va être remboursé? Non, on va regarder l'optique, les lunettes, le dentaire, enfin les choses qu'on va avoir à faire quotidiennement, relativement. Là, bon, moi, bonne surprise. Mais voilà, quelqu'un d'autre qui va travailler, qui va peut-être faire le même métier que moi, qui va avoir aussi une très bonne mutuelle, un très bon métier et tout, bah, pas de bol pour lui, ça sera remboursé qu'à 100% ou à 150%. Tant pis, c'est pour sa pomme. Enfin, c'est très con comme système. Sauf que, par exemple, lui, il va avoir un meilleur remboursement dentaire que moi. Bon, c'est con pour lui, il fallait un meilleur appareillage. Non, mais tu vois, c'est assez sidérant, comment est-ce qu'on peut être traité différemment sur les mêmes bases. Je veux dire, on sera tous les deux des personnes qui vont travailler, qui vont avoir un salaire, qui vont payer une mutuelle, des assurances. Et malgré tout, bah, moi, je suis très bien loti, lui, non. Et c'est vraiment comme ça, c'est le système. Même pour l'accident du travail. Pour l'accident du travail, donc la sécurité sociale me rembourse mieux. Alors oui, je suis content. Ça me permet d'économiser de l'argent, mais... Je veux dire, j'aurais eu le même accident un samedi, où mon alter ego a le même accident un samedi, il fait le même travail que moi, mais il n'a pas tous ses avantages. Tout le monde me donne la justification, oui, mais on part du principe que c'est parce que tu vas travailler que tu as eu cet accident. C'est absurde. Je veux dire, j'ai eu cet accident car j'ai passé mon permis moto. J'ai passé mon permis moto car j'avais envie, voilà, d'avoir une moto, d'être cool dessus, que ce soit pratique et que je puisse aller à droite à gauche. J'ai choisi d'avoir une moto parce que, enfin, on peut aller vachement loin. Personnellement, en fait, je trouve ça... On a de la chance d'être en France, donc d'avoir une sécurité sociale, d'être bien remboursé pour beaucoup de choses, beaucoup d'accidents. Mais il y a toujours des inégalités absolument incroyables pour, au final, deux personnes qui travaillent, mais qui ont eu pas de chance différemment. J'ai eu pas de chance, mais c'était le jour d'un travail, cool pour moi. Lui, il a eu pas de chance, mais c'était le jour d'un week-end. Allez, bisous. Non, mais je trouve ça assez malsain, en fait. L'accident, c'est de la malchance en réalité. Par contre, pour cette situation où le système profite plus ou moins de nous, où on a plus ou moins de chance, ça c'est de l'injustice. Ça, par contre, j'avoue que ça m'énerve. C'est mon avis. Hein. Mais tout ça pour dire que ouais, l'injustice, d'après moi, c'est celle-ci. Et j'ai de la chance dans mon malheur.
Bonjour.
Bonjour
Alexis,
comment vas-tu?
Ça va, toi?
Ça va.
Martin,
tu sais dans quelle chambre elle est?
Le Martin, c'est l'avant-dernière.
Voilà.
Ah,
c'est là-bas, il est plus ici?
Non.
Il a changé. Alexis me disait que lui, considéré comme un accident du travail, il était mieux remboursé, etc. Toi, c'était pas un accident du travail, du coup, est-ce
j'étais
que...
J'étais étudiant, donc oui, voilà, on n'a rien de remboursé dans tous les cas.
Non, mais du coup, est-ce que ça peut être financièrement, c'est compliqué, ou est-ce que tu es quand même bien remboursé? Est-ce que tu as une bonne mutuelle?
Oui, j'avais une bonne assurance responsabilité civile. Il y a un certain nombre d'aides de l'État qui ne dépendent pas du niveau de revenu, hein, donc du coup, il y a plein de mécanismes, encore une fois. Il ne faut pas se dire qu'une fois que l'accident est arrivé, que c'est tout bon, qu'il n'y a aucune question à se poser... La question se pose pour énormément de personnes et même s'il y a certaines choses qui se mettent en place, il y a des difficultés parfois. Il y a un paraplégique, je crois que c'était de l'hôpital, qui m'avait dit « Pour être handicapé, il faut être riche ». Le problème, c'est que ça se passe rarement comme ça. Donc voilà, c'est déjà bien qu'on soit en France et qu'il y ait un certain nombre d'aides sociales. Ça suffit pas pour garantir une stricte égalité, bien sûr. Après, encore une fois, hein, je veux dire, pour moi, il y a beaucoup de choses qui seront faites quand même pour que tout le monde puisse au minimum vivre décemment avec un handicap moteur. Mais effectivement, on se rend bien compte que les inégalités économiques qui sont partout, elles rattrapent tout le monde et même le handicap.
Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre.
C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gardes, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
Relais H, café.
Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
Voilà la cafette.
Ouais.
Toi, tu vas au glace direct.
Chapitre 20, force mentale, débriefing et adieu, avec Alexis, 23 ans.
Tu veux pas?
Je prends pas, toi?
J'en bois mental, Red Bull.
Alors, bonjour. Et voilà, un petit jus d'orange et un café, moi, s'il vous plaît.
Je vais t'en mettre ailleurs, après.
Ouais, bon, on boit le café. Hein. Du sucre, une touillette, c'est parfait.
Comme c'est bientôt ta sortie, qu'est-ce que le séjour à l'hôpital t'a révélé de toi-même, ou qu'est-ce que ça a changé en toi?
Je sais que c'est différent pour d'autres personnes, pour d'autres paraplégiques qui étaient ici. Ça les a aidés, ça les a poussés à se révéler une autre personnalité. Moi, non. En fait, j'avais déjà eu des difficultés auparavant qui étaient complètement différentes et qui peuvent paraître absurdes pour d'autres. Hein. Mais j'avais été, lorsque j'étais ado, beaucoup en surpoids. Enfin, quand je dis beaucoup, j'étais à 140 kilos, quelque chose comme ça. Donc, après, voilà, en l'espace de 4, 5, 6 ans, j'ai perdu ce poids pour arriver à 80. Après, je m'étais remis beaucoup au sport. Et en fait, ce chemin-là, en fait, ça m'a permis en fait, de voir non, quelle force mentale j'avais et puis quelle volonté j'avais de sortir de ma zone de confort, en fait. Quand m'est arrivée la paraplégie, je savais que j'allais plus ou moins bien me débrouiller, quoi. Mais il fallait juste que je m'adapte. Mais non, au niveau force mentale, c'est quelque chose que j'avais déjà avant. En fait, ça m'a rien fait à ce niveau-là. C'est un peu difficile dans un certain sens où voilà, certaines personnes vont être fières, entre guillemets, de ce qu'ils ont découvert de par la paraplégie. Moi, comme j'avais déjà galéré avant et je l'avais déjà accepté, bah, ça me donne rien un peu en retour, en fait. Mais c'est mon avis, hein. Complètement. Voilà.
Merci.
Écoute, merci Igor.
Merci d'avoir accepté que je te suive. L'idée d'avoir un micro derrière toi, souvent, ça devait pas être super réjouissant au début, non?
En fait, ça permet aussi de savoir ce qu'on est prêt à dire et à accepter de manière publique. Enfin, c'était ça aussi qui m'intéressait, car voilà, on est avec ses amis, sa famille. On peut parler de tout. Normalement, on est dans une zone de confort. Maintenant, la première fois que je te vois, on se connaît pas, et je sais que tout ce qui sera dit sera sous un micro, bon, même si je refuse que tu dises. Enfin, voilà, on peut s'arranger, ce genre de choses. C'est intéressant de savoir, en fait, tout simplement ce qu'on peut dire de soi et du handicap, et ce qui nous gêne ou ce qui nous bloque. C'est... Voilà, que ce soit des problèmes de douleur, relationnels, du système ou n'importe quoi. On s'en plaint avec la famille, les amis. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à s'en plaindre publiquement? En fait, on ne le sait pas jusqu'au moment où on est confronté à ça.
Je crois qu'une des premières fois où on s'est entretenu, on parlait des besoins naturels. Avait fait fort en première, quand même.
C'est vrai. Mais c'est vraiment le problème le plus gênant lié à la paraplégie aussi. Hein. Ça, tout le monde te le dira, tout le monde sûrement te l'a déjà dit. Enfin, c'est...
Oui, mais justement, c'est curieux que nous, on ait abordé, en fait, très naturellement, finalement. C'était pas volontaire.
J'étais peut-être dans un moment où voilà, je venais d'apprendre aussi certaines choses, où je me posais beaucoup de questions. Voilà, j'avais tout simplement envie d'en parler, c'est possible. Hein.
Je crois que c'est parce que je t'avais demandé naïvement... C'est quoi cette petite poche ici?
Ouais,
en fait,
possible.
C'était pour aller à la sonde.
Oui, c'est possible, je me souviens plus. Mais en fait, c'est vraiment la difficulté première qu'on a lorsqu'on est paraplégique, en tout cas dans le milieu hospitalier. Tout est adapté, en fait, pour la paraplégie. Je veux dire, on se déplace facilement, tout est plat, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de montée. Il y a des systèmes pour nous porter, donc si on veut, on n'a pas besoin de faire de transfert. On est accompagné. Tout ça, c'est géré. Par contre... tout cet aspect de besoins naturels, que ce soit en hôpital ou à l'extérieur, c'est la même chose. Il n'y a pas d'adaptation, enfin c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de facilité en milieu hospitalier ou de facilité à son domicile. C'est traité de la même manière. Donc c'est un peu dur dans le sens où il n'y a pas aussi non plus de progression, enfin, et de l'adaptation. C'est très simple, hein. Ce qu'on nous apprend en hôpital, on le fera toute notre vie par la suite. Donc c'est aussi une certaine manière assez choquante, en fait. C'est vraiment le sujet. J'aurais discuté avec un autre patient ici, qui lui, il a eu un accident, il est paraplégique, cependant, il est en fauteuil, mais il peut marcher. Donc il peut marcher, bon, pareil, sur des barres parallèles, mais un peu mieux que Martin, en fait. Il n'a pas besoin de prothèse ou autre. Et ça fait que 3 mois, donc... Il a bon espoir, et même le corps médical a bon espoir qu'il va très bien récupérer par la suite. Hein, donc, hurrah pour lui. Mais on discutait, c'est vrai que lui, du coup, il est quand même énormément gêné par ce qu'il ne se voyait pas, et donc c'était ça. Les besoins naturels, donc. Que ce soit ses amis ou autres, ils disent c'est bon, il va récupérer, tout va bien se passer, ça va redevenir comme avant, les relations qu'il avait avec les autres. Mais non, pas du tout. Il avait beaucoup de mal à l'accepter, beaucoup plus que d'autres patients avec qui je suis, ou même avec moi. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de motricité et on sait que bon, c'est comme ça. Sauf miracle ou avancée de la médecine, c'est comme ça. Donc notre handicap, il reste visible. Lui, il a un bon espoir de pouvoir récupérer cette motricité. Cependant, tous les autres problèmes liés à la paraplégie, ben, il les a. Hein. Il les a. Il a juste la chance de pouvoir bouger ses jambes. C'est quand même pas mal, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à l'acceptation, c'est différent. Il va sûrement vivre avec un handicap complètement invisible. Et beaucoup moins traité aussi. C'est bête à dire, mais même au niveau financier, encore une fois, que ce soit Modibo, Martin, n'importe quoi, on va avoir un taux d'invalidité qui sera décrété par certains médecins, ce qui va faire en sorte que voilà, le système, la sécurité sociale nous aident dans beaucoup de situations. Lui, comme il a de la motricité, il n'a pas d'invalidité à proprement parler. Il va avoir beaucoup moins d'aide, sauf qu'il a quand même un handicap au niveau des besoins naturels, de la spasticité, des douleurs, et c'est vachement chiant. C'est même la majeure partie qui nous emmerde le plus, en fait, parmi les paraplégiques. Et lui, il va le subir, sans que ça soit, constamment, et en plus avec moins d'aide. Je sais pas comment est-ce que je l'aurais vécu à sa place. Voilà. Il fait partie quand même d'une sous-catégorie d'handicapés. Oui, il est handicapé, mais pas vraiment, parce que ça se voit pas. C'est un peu bâtard quand même comme situation. Alors que bon, nous, voilà, Modibo, Martin, Enfin, Martin, on verra par la suite, hein. Mais on est dans un fauteuil. Là, ça se voit. Et voilà, les gens, dès qu'ils voient un fauteuil, ils savent que c'est un handicap, ils savent qu'il y a quand même des problèmes, même s'ils les connaissent pas. Quand tu vois quelqu'un marcher normalement dans la rue, tu vas pas te dire, tiens, il doit sonder tous les 3 heures pour pouvoir pisser. Non. Non. Sauf qu'il le vit quand même. Il est quand même handicapé, il a quand même subi Garche, il a quand même subi un accident traumatique, il a subi la rééducation. C'est-à-dire, il a eu du vécu. Et ça, ça va pas se voir. Donc c'est un peu... Ouais, d'une certaine manière, quand même, c'est difficile. Je dis pas qu'on est content de l'avoir, enfin, de le montrer, nous, mais on n'a pas à s'expliquer. Enfin, je trouve que c'est compliqué. Je considère qu'il mérite une petite médaille qu'il peut accrocher n'importe où pour dire qu'il l'a vécu, quoi, qu'il l'a subi. Parce que c'est pas facile et ça mérite que ça se sache, en fait.
Merci, Alexis.
Écoute, merci, Igor. Hein, sur un petit point.
C'est presque nos adieux, là.
C'est ça. Non, bah.
Non, merci vraiment infiniment.
Bah écoute, merci à toi aussi, c'était intéressant. Puis j'ai hâte, on est beaucoup à avoir hâte d'entendre le reportage complet. Ouais, on a hâte, voilà.
On se rappellera des souvenirs.
C'est ça, des bons souvenirs, hein.
Non, j'ai dit souvenirs, j'ai pas dit bon ni mauvais d'ailleurs, j'ai porté aucun jugement de valeur.
C'est vrai, t'as raison. Vaut mieux pas, on se mouille pas, hein. C'est sûr.
Merci Alexis.
Allez, à la prochaine.
Alexis a quitté l'hôpital le 12 août 2019. Il vit chez ses parents et n'a pas encore repris le travail. Modibo a quitté l'hôpital le 27 septembre 2019 et va enfin avoir son propre appartement. Quant à Martin, il a quitté l'hôpital début septembre 2019. Il a repris ses études et s'entraîne à la marche avec ses attelles et un déambulateur.
Troisième partie, un reportage signé Igor Strauss, réalisation Victor Hull, et un grand merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont témoigné, qui ont raconté, qui ont partagé, Alexis, Martin, Modibo bien sûr, et l'ensemble des équipes de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Demain, nous nous retrouvons à 9h10, temps universel, dans Priorité Santé.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Tout à l'heure.